Donc vous êtes intervenu au Forum Libé sur la question de la responsabilité du pouvoir. Oui. Vous avez donné une définition de la responsabilité qui est une forme morale et sociale de la causalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'on essaye d'établir un rapport entre des actions et leurs conséquences et puis des auteurs de ces actions. Donc on essaye d'établir un rapport causal. Mais comme c'est un rapport causal qui est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, que quelqu'un n'agit jamais tout seul, c'est une forme de la causalité complexe.
Oui, et au sujet de ces complexités, vous différenciez deux sortes de responsabilités, une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Et vous prenez même une responsabilité collective pour agir contre une forme, contre l'abus de pouvoir, par exemple.
Ben, c'est-à-dire que dans notre droit, et c'est un progrès par rapport à l'histoire des civilisations, dans notre droit, la responsabilité est individuelle, parce qu'effectivement, on ne va pas accuser quelqu'un de ce que quelqu'un d'autre a fait ou de ce que le groupe a fait. Mais comme, justement, il n'y a pas d'action strictement individuelle, même au niveau du terrorisme, on le sait bien, il n'y a pas d'action strictement individuelle, il y a toujours, j'y dirais, une part de collectif dans la responsabilité. Donc, premièrement, le rôle du droit et de ceux qui l'appliquent, c'est de démêler cette complexité. Mais en même temps, je veux dire, d'un point de vue positif, en quelque sorte, les individus agissent toujours collectivement, y compris en politique. Donc à ce moment-là, effectivement, ils ont une possibilité d'action collective et une responsabilité aussi d'action collective. Donc il faut voir comment on peut mettre en place des institutions qui permettent justement cette action collective et cette responsabilité collective.
Bon, je ne suis pas une spécialiste du droit, mais il me semble qu'aux États-Unis, ça existe, ce genre d'action au tribunal.
Oui, alors dans ce qui existe, si vous voulez, ça, je parle surtout de droit. C'est assez facile à expliquer, c'est un peu plus long, mais c'est facile à expliquer. Comme l'idée du droit actuel, c'est l'idée de la responsabilité individuelle. Quelqu'un qui est lésé d'un point de vue, par exemple, notamment économique, par une firme, il est seul contre la firme. Ça, c'est un, je veux dire, une cause, une victime. La firme étant une personne morale, ce qu'on appelle une personne morale. Ce que le droit américain a très bien vu, c'est qu'aujourd'hui, la firme, c'est quelque chose d'opaque avec un très gros pouvoir d'action, et que l'individu seul en face est vulnérable. Puisqu'il va, par exemple, mobiliser des moyens d'attaquer ou de se défendre qui sont disproportionnés, infiniment plus petits que ceux de la firme, qui a beaucoup plus de moyens. Donc, comme en règle générale, les torts que cause une firme sont des torts collectifs, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs consommateurs qui vont être victimes, dans le droit américain, il y a une possibilité d'action collective, c'est-à-dire que les victimes se fédèrent, et elles rassemblent leur pouvoir et mènent une action contre la firme. Curieusement, depuis, on en parle tout le temps depuis plusieurs campagnes électorales en France, mais les lobbies des entreprises sont tels que toutes les parties, y compris la gauche quand elle est au pouvoir, reculent devant l'action collective, ce qui fait que les individus sont obligés d'attaquer un par un une firme, ce qui fait que la plupart du temps, ça ne met pas fin du tout aux abus, parce que même si la firme est condamnée une fois, elle ne sera pas condamnée 50 000 fois, pour le même délit, puisqu'il faudrait que tous les 50 000 autres personnes lésées fassent une action, une par une, quoi.
Alors, au sujet des responsables politiques, du président de la République particulièrement, vous préconisez la suppression de la Cour de justice de la République ?
Alors non, pour le président de la République, il y a un problème déjà sur son immunité, parce qu'il a une immunité totale qui s'étend aussi à son comportement civil. Ça, je suis totalement contre l'immunité. C'est le problème un peu aussi de Strauss-Kahn et la justice américaine. L'immunité pour les actions accomplies dans le cadre de leur fonction me semble quelque chose de normal. Enfin, c'est une condition d'action, parce que sinon, ça serait impossible. Il suffirait que les gens fassent des actions, c'est impossible. En revanche, je suis pour une réduction de l'immunité du président de la République pour toutes les actions qui sont de type privé. Je veux dire, aussi bien en tant qu'il est parti civil qu'en tant qu'il serait incriminé. En revanche, pour les membres du gouvernement, Il existe quelque chose, un tribunal spécial, la cour, comment s'appelle la cour de la République, la cour supérieure de la République, cour spéciale de la République, je crois, qui est en fait une juridiction spéciale avec des pairs. Hein. Ils sont jugés par leurs pairs. Moi, je pense que la suppression de cette cour s'impose. Pour les fautes commises dans leur action, il faut qu'ils soient soumis à la juridiction normale. Pour les fautes commises, je dirais, indépendamment de leur fonction, justement. C'est ça qui va pas. Hein. C'est ça qui va pas du tout actuellement.
D'accord. Et au sujet, on est en période électorale, donc on a droit aux campagnes électorales des différents candidats, et je crois que c'était à ce sujet que vous disiez que vous sentiez plus dans la désinformation que dans l'information. Mais ça se prête aussi au général, ce propos-là.
Ah oui, non, mais parce que ce qui me frappe dans cette campagne, c'est qu'elle est devenue presque uniquement une campagne d'intervention faite pour la communication. En fait, un meeting n'est pas fait pour être un meeting, il est fait pour être télévisé. Donc on a une surexposition dans les médias, et qui aboutit en fait, avec la complicité des médias d'ailleurs, à une désinformation, c'est-à-dire que tous les jours Sarkozy fait quelque chose, tous les jours Sarkozy fait une déclaration, tous les jours c'est repris, ça devient une sorte de festival fantastique d'une campagne purement d'événements et de coups. Et du coup, il n'y a plus aucune idée ni de bilan, plus aucune idée de programme, plus aucune idée. On est entièrement sur de l'image. Je considère que c'est une des pires campagnes électorales qu'on ait jamais vues. J'ai quand même 67 ans. Hein. C'est une des pires campagnes électorales qu'on ait vues depuis longtemps. Mais c'est probablement un nouveau régime de fonctionnement. Médiatique, hein, je veux dire, et peut-être que ça va être désormais comme ça. Donc comment est-ce que les candidats vont, pour la suite, parce que cette fois-ci ça me semble un peu tard, comment est-ce qu'ils vont essayer de reprendre les choses en main par rapport à des campagnes qui deviennent de purs événements télévisuels, quoi, je veux dire.
Oui, parce que c'est à craindre si on poursuit ce genre de campagne dans ce sens-là, dans le sens...
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je trouve que, par exemple, pour le moment, le principe de l'égalité du temps de parole est un bon principe, dans la mesure où, sinon, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas jour et nuit deux candidats qui matraquent les médias tout le temps. Je veux dire, on pourrait imaginer aussi, d'ailleurs... mais c'est difficile, parce que les réseaux sociaux, c'est que les médias officiels, pendant les 8 jours... arrête de toute communication politique. Alors, il resterait la communication sur Internet, il resterait les machins, mais ça serait autre chose. Ça serait beaucoup plus artisanal. Et ça correspondrait beaucoup plus aussi aux initiatives personnelles, quoi, je veux dire, même des citoyens. Les réseaux sociaux, des choses comme ça.
Donc, vous irez voter quand même, hein ?
Ah ben, bien sûr que j'irai voter, parce que je trouve que Sarkozy, ça commence à bien faire.
Et vous pensez qu'il a des chances d'être réélu ?
Moi, profondément, je ne crois pas. Je pense que, justement, dans la désinformation actuelle, on nous communique qu'il a des chances. Moi, je pense que... je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais je pense que les appartenances politiques sont des choses très profondes qui dépendent de l'éducation, de l'origine sociale, de l'activité socio-professionnelle, de l'environnement géographique, etc. Et que c'est pas bousculé. Ça est bousculé un peu à la marge, hein, mais c'est pas bousculé par des grands changements politiques. En fait, je pense que ça se terminera, comme toujours sur ces élections gauche-droite, par 51-49 pour Hollande. Non, mais c'est... De toute manière, la gauche est infimement majoritaire, et peut-être même pas complètement. Mais ça ne sera sûrement pas du 58-42 comme on pensait au début. C'est un non-sens sociologique, si vous voulez. Ça ne peut être que du 52-48, 51-49. Ça peut même se jouer à 400 000 voix. Hein.
Oui, mais on peut avoir la surprise d'une Marine Le Pen au deuxième tour.
Cette fois-ci, non. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que 2002, c'était une erreur de Jospin, qui a pensé que au second tour et qui n'a pas préparé le premier tour. Mais voyez comment cette fois-ci, Sarkozy a très super bien préparé son premier tour en excluant tous les autres candidats sauf Marine Le Pen. Il a récupéré toutes les voix, même quand c'était du 1%, mais surtout chasse, pêche et nature, c'est 4%, ça. Il s'est débrouillé pour faire le vide autour de lui. Il voulait, parce qu'il savait effectivement que s'il y avait une dispersion des candidatures, il risquait d'être mis en infériorité par Marine Le Pen. Donc les gens ont réagi déjà à ça. Je veux dire, il y a quand même une certaine sagesse politique qui se met. Mais je pense que... Puis alors, le paradoxe de Marine Le Pen, il est très intéressant, c'est que quand le Front National se devient plus présentable, il perd des voix, un peu.
D'accord.
Parce que très franchement, elle a, quand on regarde dans ses attitudes électorales, elle est souvent moins pire que Sarkozy, hein, au niveau du contenu. Mmh. Mais ça posera quand même le problème, et je pense que c'est un problème qui se dessine pour la suite. En France, ça va quand même poser le problème d'une réintroduction d'une certaine dose de proportionnelle au niveau de la représentation nationale. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des scrutins majoritaires qui écrèment 30% de l'électorat. Parce que quand on compte qu'il y a 30% d'abstention, en gros, hein, donc il y a 60% de gens qui votent. Si vous avez 30% entre Mélenchon et Le Pen, en gros... Hein, qui sont, ça fait 30% et ça fait de 70%, ça fait 21%, si je calcule bien.
Si
vous êtes 30% de 70%, 7 fois 3, 21, ça fait 21%.
D'accord,
si vous ajoutez 30% d'abstentionnistes et 21% d'extrémistes, ça fait une majorité du corps électoral qui est hors du système politique. Et ça, c'est grave.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.